Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Une jeune femme, députée travailliste, assassinée jeudi dernier et la campagne électorale stoppée net. 27 gouvernements suspendus aux résultats. À Bruxelles, des institutions qui tournent au ralenti. Les marchés financiers s'affolent, les milieux d'affaires s'inquiètent. Dans toutes les langues du continent européen, les messages affluent pour leur dire qu'on les aime, qu'on les admire, qu'on a besoin d'eux. Jeudi prochain, les Britanniques devront décider de quitter ou non l'Union européenne. Lancé comme un coup de dé par un Premier ministre soucieux de tenir à sa main son propre parti, le référendum du 23 juin agite des peuples anglais, mais aussi irlandais, gallois, écossais, que l'on croyait plus flegmatiques, sauf bien sûr quand il s'agit de football. Jusqu'à l'assassinat de Joe Cox, les sondages donnaient les deux camps, le Brexit et le Remain, pratiquement au coude à coude. Le meurtre d'une jeune parlementaire pro-européenne peut-il influencer ce scrutin ? Comment en est-on arrivé là ? Quels sont les arguments qui, au-delà des chiffres, ont enflammé le débat ? Quel impact aussi sur le continent et sur un édifice européen qui paraît bien vermoulu ? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Toby Young, bonjour. Vous êtes partisan du Brexit, directeur adjoint de magazine très engagé dans votre cause, The Spectator. À vos côtés, à Londres, dans le studio de la BBC, Jonathan Fenby, directeur général de Trusted Sources et auteur bien connu de livres sur la France. Au téléphone de Londres, Mark Leonard, directeur de l'European Council on Foreign Relations. Et aussi Ian Beck, vous êtes professeur d'économie à la London School of Economics. À mes côtés, à Paris, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Toby Young, le meurtre atroce de cette jeune parlementaire travailliste, 41 ans, connu pour son engagement pro-européen, connu aussi pour son engagement pour l'accueil des réfugiés syriens, jusqu'à quel point est-ce que cet assassinat peut changer le scrutin de jeudi prochain ?
I think it's a little early to say because
campaigning
on both sides was suspended
parce que la campagne référendaire a été suspendue
and it's been suspended today
après le meurtre de Joe Cox et la reprise de la campagne n'est prévue qu'à la fin du week-end voire en début de semaine prochaine. Cela dit, l'ambiance du débat politique est assez marqué par tous ces événements
et
la volonté des partisans du maintien et des partisans de la sortie de lier leurs causes respectives à cette tragédie est assez révélatrice de l'hostilité et de l'antagonisme qui règne. Et cela est bien plus vif que dans une campagne électorale ordinaire. Et moi, j'essaye d'analyser pourquoi les choses sont ainsi. Les enjeux sont plus importants dans cette campagne référendaire qu'ils ne le sont dans toute autre campagne, parce qu'en partie, les parties prenantes sont plus attachées aux problématiques. Du reste, c'est pour ça que ces gens-là se sentent responsables politiques. Dans le cadre d'élections générales, les antagonismes s'expriment entre partis. Et tout cela est ritualisé. Il y a un certain jeu de rôle qui est à l'œuvre. Et ces rites et ces rôles que l'on joue, eh bien, ne sont pas à la disposition des acteurs de cette campagne référendaire. Et cela ne fait que amplifier les hostilités, bien plus qu'on ne pourrait le penser.
Jonathan Fenby, vous êtes pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que le climat de cette campagne a changé, mais qu'au fond, l'émotion peut éventuellement, c'est ce qu'on entend en tout cas dans la presse européenne sur le continent, que l'émotion peut en fait favoriser votre camp?
C'est possible. C'est difficile à juger maintenant. C'est trop tôt, dans un sens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette meurtre a tombé au milieu d'un campagne extraordinairement malsain en Angleterre. On a eu un manque de discrétion, de discernement, de respect pour les faits qu'on a rarement vu en Angleterre. Vous avez parlé d'abord du flegme anglais, mais on voit très peu de ça. Et en fin de compte, je dirais que pour le camp Brexit, l'émotion, c'est l'atout le plus important. Bon, il y a des arguments, je sais, on peut en discuter là, mais c'est surtout, c'est l'émotion, c'est le fait que l'immigration joue un rôle de plus en plus important, qu'on a eu une affiche du côté Brexit cette semaine qui montrait des réfugiés syriens qui valaient vers l'Europe de l'Est, qui n'avaient rien à faire avec l'Angleterre du tout, mais qui disaient c'est le point de rupture, comme si on avait des millions de Syriens qui arrivaient à Calais, et on sait ce qui arrive avec les jongles à Calais. Et donc on a eu une exploitation de l'émotion. Le fait que un des chefs du Brexit, quand on dit que tous les experts disent que ce sera très mauvais pour l'Angleterre, il dit on n'a pas besoin des experts, on a eu assez d'experts. Donc les faits comptent pour de moins en moins et l'émotion de plus en plus. Et malheureusement, cette meurtre tombe pile au milieu de ce processus.
Comment expliquez-vous, Toby Young, que jusqu'à l'assassinat de cette jeune parlementaire jeudi dernier, les sondages vous donnaient l'avantage, alors que vous vous appuyez, comme vient de le dire Jonathan Fenby, sur des arguments qui sont factuellement erronés, quoi que l'on pense par ailleurs de l'état de l'Union européenne.
Well, interestingly, both sides in
Il est intéressant
debate,
de noter que les deux camps pensent que l'autre est motivé par l'émotion. Chacun pense être animé d'un bon raisonnement. Donc, votre description, je la réfute. Une des raisons pour lesquelles la campagne en faveur du maintien a baissé dans les sondages, c'est parce qu'ils ont fait trop confiance à certaines sources d'autorité. David Cameron est le grand partisan du maintien et l'une des tactiques des partisans du maintien, c'est de faire appel à des experts, des institutions, des groupes de réflexion prétendument et experts, mais ils n'ont pas tenu compte du manque de confiance de la population envers les sources d'information habituelles et notamment les experts. S'agissant précisément des sondages, on s'est aperçu que seul 17% de la population pensait que George Osborne, chancelier de l'échiquier, tenait des propos erronés lorsqu'il disait que la population s'appauvrirait de 4 300 livres. Et Boris Johnson, lui, partisan du Brexit, on l'écoute volontiers. Donc vous voyez, il y a cette méfiance vis-à-vis des experts. On a tendance à sous-estimer la méfiance, voire la défiance de la population britannique, et il y a une désillusion face aux élites. Ce n'est pas l'apanage de la politique britannique, il en va de même en France ou aux États-Unis, dans le monde occidental d'une façon générale.
Jonathan Fenby, pour que l'on comprenne bien le contexte britannico-britannique, si j'ose dire, le Premier ministre David Cameron avait promis un référendum à son propre parti conservateur en 2013. Il a été réélu brillamment l'année dernière. On a l'impression qu'il s'est pris lui-même à son propre piège en termes purement politiques et qu'il a provoqué lui-même la scission de son parti.
Absolument. Je dirais d'abord que là, on trouve un terrain d'entente. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Toby. C'est le mépris de la classe politique, de l'élite, comme on dit, en Angleterre. Et tous les sondages montrent que le soutien pour Brexit vient surtout d'exactement ces couches de la société qui soutient, par exemple, le Front National ou Donald Trump, etc., etc. On a ce mépris général pour la classe politique. Et une des choses en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas de doute que si un représentant de l'élite politique, c'est David Cameron et George Osborne. Et ce que vous venez de dire, c'est aussi exactement vrai, c'est que Cameron, dès qu'il est devenu chef du Parti conservateur, il a montré un peu peur bleue du groupe eurosceptique, anti-européen, de son propre parti. Ça, c'est une tradition. John Major avait la même chose avant, quand il était Premier ministre. Et plutôt que dire, voilà, vous avez vos idées, mais moi, je veux rester en Europe, Cameron a joué avec ces gens. Il les a donné des morceaux petit à petit en pensant que ça va les satisfaire. Tandis que c'est les gens qui, le plus de viande rouge on les donne, le plus ils veulent. Et ils ont poussé ça. Et puis Cameron a pensé, bon, je vais avoir ce référendum, je vais le gagner et ça va amener paix à la maison. Le problème, c'est que premièrement, on sait que Cameron, c'est un Européen tiédasse. Il a jamais montré d'enthousiasme pour l'Europe. Il montre toujours pas d'enthousiasme pour l'Europe. C'est tout des chiffres, etc. Il n'y a rien en disant, comme moi je dirais, l'Europe c'est une bonne chose, c'est tout. Mais il n'ose pas faire ça. Il a joué ce jeu dans son parti. Et le plus, il y a deux dangers pour l'Angleterre, à part la question de sortir de l'Europe. Le premier, c'est que le Parlement, on croit, la plupart des députés sont pro-européens, sont contre Brexit. Donc, qu'est-ce que se passe si le peuple prononce pour une sortie de l'Europe, mais la législation doit passer par un parlement où la plupart des députés veulent rester en Europe? C'est le paralyse, là. Et deuxièmement, le Parti conservateur est très, très divisé. À un moment où on a une opposition, le Parti travailliste, qui n'est pas capable de gouverner. Donc, sous le système britannique, il faut toujours avoir un gouvernement fort avec une majorité au Parlement et on risque d'aller dans un monde où on n'a pas ça et ce sera le chaos politique. Et à ce moment-là, les marchés financiers dont vous avez parlé au début vont prendre peur parce que c'est exactement le genre de situation qu'ils n'aiment pas. L'Angleterre dépend de l'argent étranger, dépend qu'on achète nos obligations, etc. Et ça peut effectivement être un chaos financier, pas à cause de Brexit tel quel, mais à cause des répercussions politiques.
Mark Leonard, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous dirigez l'European Council on Foreign Relations, qui est donc l'un des centres d'études qui, depuis des mois maintenant, travaille sur les argumentaires et qui explique la manière dont les deux camps s'affrontent dans un climat, et on l'a hélas vu tristement jeudi dernier, de plus en plus violent. Aussi bien Toby Young que Jonathan Fenby nous expliquaient que l'immigration est devenue le sujet le plus brûlant, le plus central de ce débat, aux dépens de l'économie. Or, l'impression qu'on a toujours, nous autres, sur le continent, c'est qu'au contraire, les Anglais sont des gens pragmatiques, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui ont poussé l'Union européenne à s'ouvrir au grand marché et au libre-échange. Comment expliquez-vous cette évolution des mentalités à laquelle on assiste depuis quelques semaines ?
Oui, en fait, on ne sait pas encore comment ça s'est évolué parce qu'il y a encore une semaine avant la décision. Il y a eu un sondage il y a deux jours dans le Sun, le journal populaire, et dans ce sondage, on a demandé à la population s'ils voulaient sacrifier leur argent pour arrêter l'immigration. Et on leur a donné plusieurs choix et 70% de la population a dit qu'ils ne voulaient même pas sacrifier un seul livre pour arrêter l'immigration. Le problème, c'est d'abord que le gouvernement n'a pas la crédibilité pour montrer le lien entre le risque économique pour le pays dans le gros et les circonstances personnelles des voteurs. Et s'ils arrivent à faire un lien entre les deux, je pense que ça va beaucoup influencer le résultat. Mais deuxièmement, il faut comprendre que l'immigration est devenue une des deux questions les plus importantes dans la politique britannique depuis l'élargissement de l'Union européenne. Il y a 3 millions d'Européens qui habitent en Angleterre. Chaque année, il y a un tiers d'un million de personnes qui viennent au Royaume-Uni. Et c'est vrai qu'ils font une contribution à l'économie, qu'ils payent plus d'impôts, qu'ils reçoivent de services publics. Mais ça crée de la pression sur les places scolaires, sur le système de santé. Et dans certaines régions et dans certaines professions, ça peut aussi réduire les salaires des individus. Et c'est à cause de ça qu'il y a une peur de l'immigration. Et le problème, c'est aussi que les partis de gauche et de droite, les conservateurs et le parti travailliste, ne représentent plus très bien ces personnes qui ont l'impression qu'ils sont perdants dans la mondialisation. Et c'est un peu le même public auquel Marine Le Pen fait appel en France.
Mais Marc, ce qu'il faut préciser, c'est que l'immigration dont vous parlez, elle vient de ces pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, dont la Grande-Bretagne voulait à tout prix l'adhésion à l'Union européenne. Et aujourd'hui, on voit que dans les arguments des partisans du Brexit, ils disent il faut au contraire favoriser une immigration venant du Commonwealth, donc une immigration qui viendrait plutôt d'Asie. Donc c'est très contradictoire par rapport à ce que l'on peut voir dans le reste de l'Europe.
Oui, en fait, c'est plutôt le nombre de personnes que leur origine. La campagne la campagne de Leave qui veut partir de l'Union européenne dit qu'ils veulent accepter plus de personnes d'Asie que de l'Europe de l'Est. Mais en fait, ils essayent de faire appel aux communautés qui sont contre l'immigration et aussi à la grande population qui vient d'Asie et qui c'est un peu malhonnête ce qu'ils disent, mais le problème c'est plutôt la pression qui est mise sur les services publics avec des grands flux migratoires et en fait la moitié des personnes qui viennent en Angleterre, ces 330 000 qui sont venus l'année dernière, la moitié ne vient pas de l'Union européenne, mais vient du reste du monde. Alors, il y a un besoin économique. Il y a aussi l'économie bénéficie aussi, mais les bénéfices ne sont pas très bien distribués. Et c'est à cause de ça que peut-être un tiers de la population se sent très déprivilégié par ces flux migratoires. Et c'est à ce tiers-là que la campagne du non fait appel et ils ont réussi. Depuis que les chiffres officiels sont sortis il y a deux semaines, de parler beaucoup d'immigration. Et ils ont l'impression que chaque jour que la presse et l'opinion et les médias parlent de l'immigration plutôt que des risques économiques, c'est un jour où ils gagnent. C'est ça qui a changé les sondages dans les jours, dans la semaine qui vient de passer.
Mark Lennon, merci d'avoir été avec nous par téléphone. Jean-Dominique Giuliani, je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Vu, encore une fois, de l'Europe continentale, cette rupture dans l'image que l'on a, surtout des Anglais, parce qu'on a tendance à considérer qu'ils sont britanniques, mais il y a quand même des différenciations importantes entre les Anglais, les Écossais, on l'a vu au moment du référendum écossais, les Écossais qui restent très pro-européens, et d'ailleurs, le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a été, dans les débats de la BBC, la plus efficace, d'ailleurs, contre les leaders du Brexit. Comment expliquez-vous, en fait, cette méconnaissance que nous avons de la réalité anglaise ?
Oui, je crois aussi que c'est une nouveauté pour les Anglais d'être à leur tour frappés par cette crise, en fait, de la démocratie représentative qu'on voit aussi aux États-Unis ou dans d'autres démocraties mondiales. Donc, populisme, extrémisme, voire résurgence des nationalismes, on le voit un peu en Europe de l'Est. Donc il y a incontestablement une interpellation et la question migratoire est, c'est vrai, au premier plan de celle qui pose les questions existentielles à l'Europe. Si on essaie de regarder avec un peu de recul, finalement, ça fait 500 ans que l'Europe illumine le monde, le domine d'une manière ou d'une autre, que les puissances européennes ont dicté la loi mondiale.
Et aussi grâce aux migrations européennes et en particulier à ces Européens qui sont allés en Amérique du Nord.
Absolument. Et donc, depuis le début du XXe siècle, on voit que ce procédé n'est plus d'actualité. Et donc, nous arrivons avec ce mouvement d'accélération de la mondialisation particulièrement rapide, depuis la chute du mur de Berlin, à l'heure de vérité, en quelque sorte. Et on a l'impression qu'aucun parti politique sur le continent, comme désormais au Royaume-Uni, et en Angleterre en particulier, surtout, n'arrive à donner de réponse satisfaisante à une opinion qui pose une question assez existentielle concernant la culture, la religion, l'avenir en commun ou tout seul au sein d'un monde qui a complètement changé. Et là, les populistes prospèrent d'une manière extraordinaire. Nigel Farage a déclaré...
Donc le patron de UKIP.
Ça m'est totalement égal les conséquences du non. Ce que je veux, c'est gagner ce référendum, point final. Il l'a dit comme ça à la télévision. Donc c'est un point d'irresponsabilité totale qu'on retrouve sur le continent, y compris en France d'ailleurs, dans le discours des populistes. Et l'idée, c'est je veux montrer que les dirigeants actuels sont incompétents, à quel que soit le prix, et on verra bien après.
Mais encore une fois, quand on voit ce qu'a été depuis l'adhésion, depuis l'entrée de la Grande-Bretagne, donc en 1975, l'adhésion réelle, contre laquelle il faut rappeler que l'actuel chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, était hostile. La contribution de la Grande-Bretagne a toujours été dans, encore une fois, la priorité des intérêts économiques. Le grand marché, les accords de libre-échange, une forte pression pour l'élargissement, de façon à ce que ce marché soit encore plus grand, et... jusqu'à une époque très récente, une pression forte pour que ce grand marché s'étende aux services. Et là, on voit, et nos interlocuteurs à Londres viennent de nous l'expliquer, que les arguments économiques perdent pied.
Oui, alors d'abord, l'affaire n'est pas terminée, n'est-ce pas ? Je crois que la semaine qui vient est totalement déterminante pour, notamment après ce terrible meurtre de Joe Cox, qui redonne, comment dirais-je, un capital d'émotion aussi aux gens un peu plus sérieux en disant « attention, il y a des limites aux arguments et les mots peuvent tuer aussi ». Donc je crois que cette semaine-là est déterminante. Personnellement, je reste convaincu quand même que ce que vous dites est vrai et que chez les lecteurs britanniques, davantage que chez les lecteurs latins, français, les arguments de bon sens économique et pragmatique concernant les intérêts demeurent très forts, malgré cette pression populiste. Et personnellement, je ne partage pas le pessimisme ambiant actuel, notamment parce que je pense que les Britanniques vont aller voter plus que prévu après cet événement, et que la sagesse finalement l'emportera avec une marge plus importante qu'on ne le croit.
Ian Begg, merci de nous avoir rejoints par téléphone. Vous enseignez à la London School of Economics, vous êtes spécialiste de l'économie européenne. Pour vous, économiste, est-ce que cette campagne où manifestement l'émotion l'emporte sur les faits, est-ce que c'est en quelque sorte un déni de votre propre contribution à l'éducation de vos concitoyens?
Oui, j'estime que la campagne maintenant s'axe sur deux thèmes. D'un côté, les questions d'identité de migrants qui sont pour le vote Leave, et les questions d'économie où quasiment la totalité des économistes estiment que si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, on va perdre quelques points de PIB. Donc, c'est des risques économiques contre ces questions d'émotion.
Et donc, ces risques économiques, on voit... Et Mark Lennon nous le rappelait à l'instant, comme Toby Young d'ailleurs, que ces risques économiques sont certes pris en compte par une partie de l'électorat, mais la campagne du Brexit les piétine en quelque sorte, les nie, et dit au contraire que l'argent déboursé par les Britanniques aux institutions bruxelloises, pourrait être au contraire mieux utilisé, et notamment dans le système de santé. Je crois que l'obsession britannique avec le sort du NHS, le National Health Service, est quelque chose de très singulier, surtout pour nous Français. Expliquez-nous cela.
Oui, c'est un peu le fait que le service de santé, le National Health Service, c'est quasiment une religion chez nous. Donc, on peut jamais s'attaquer au service de santé, et à chaque fois qu'on parle de dépenser quelques sous, on va chiffrer ça pas en livres sterling, mais plutôt en infirmière. Si vous souhaitez bâtir un pont ou quelque chose, ça vous coûte combien d'infirmières? Et on voit le même discours avec les cotisations pour l'Union européenne. On voit que du côté de Leave, on parle de 350 millions de livres par semaine qui sont versés à Bruxelles. C'est faux, c'est des mensonges, ils savent que ce sont des mensonges, mais ils insistent pour dire que c'est de l'argent qu'on pourrait utiliser beaucoup mieux en dépensant sur les services de santé. Alors voilà le ton des débats qu'on a. En fait, s'il y a une perte de PIB, ça va faire que les revenus de l'État vont baisser. Mm-hmm. Donc déjà, même si c'était 350 millions, et le vrai chiffre c'est 280, même si c'était 350, on risque de perdre ça avec les pertes de PIB. Mais
on n'en débat pas. Voilà, on n'en débat pas. Ian Begg, qu'on va retrouver fort heureusement tout à l'heure, vient de nous expliquer que les arguments des points perdus du PIB n'ont aucune importance. Jonathan Fenby, vous êtes pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Est-ce que l'intervention du président Obama lorsqu'il est venu à Londres il y a quelques semaines et qui a mis en garde les Britanniques en disant « mais jamais les États-Unis n'accorderaient à une Grande-Bretagne sortie de l'Europe un statut préférentiel », les avertissements aussi des grandes institutions internationales du Fonds monétaire jusqu'à l'OCDE allant dans le même sens, comment est-ce que cela a joué sur l'opinion, selon vous? Ça a été bon ou ça a été mauvais pour votre cause?
C'était pas très bon pour notre cause, parce que la réaction, il y avait deux réactions. Premièrement, il y a la réaction populiste, dont plusieurs des collègues ont parlé déjà. Et la réaction là, c'est qu'est-ce qui fait Obama de venir ici nous dire comment conduire nos affaires? Et même Boris Johnson, le plus grand porte-parole du Brexit, il a fait des allusions racistes comme ça, que Obama, parce qu'il était moitié kényan, avait quelque chose
choses contre l'Angleterre pour des raisons coloniales et c'est pour ça qu'il parlait comme ça. Ça va vraiment côté Brexit. Bon, je suis parti pris, je sais là-dedans, mais ils disent, comme a dit Michael Gove, qui est la tête pensant du Brexit,
et qui est un ministre du gouvernement,
qui est ministre de justice,
ministre
plus,
de
ça,
la justice,
de la justice, et qui
du gouvernement de David Cameron. Il faut quand même à chaque fois souligner cette ce côté
absolument, c'est extraordinaire, et qui se plaint, pardon, ça c'est à peu près, mais il se plaint que il a tout le temps des dossiers qui passent sur son bureau sur la justice européenne. Mais évidemment, si vous êtes ministre de la justice, vous allez avoir plein de dossiers comme ça, c'est l'évidence. Mais pour lui, c'est un fardeau affreux comme ça qui l'empêche de faire autre travail. Mais lui, il a dit plusieurs fois, on en a marre des experts. On s'en fout des experts, en fin de compte. Donc, il balaye tout ça, Obama, le FMI, le OECD, etc., etc., comme ça. Et quand, par exemple, des ministres allemands disent qu'ils veulent que l'Angleterre, la Grande-Bretagne restent dans le marché commun, la réaction dans la presse populiste Brexit, c'est qu'est-ce qu'ils font ces Allemands? On les a battus deux fois dans des guerres, et maintenant, ils osent nous dire ce qu'il faut faire. Il y a vraiment une xénophobie là-dedans, qu'on ne savait pas que ça existait en Angleterre. Et ça, c'est un des chocs de cette campagne. C'est le populisme, le rejet du globalisme, le rejet de beaucoup des choses en Europe que, comme vous venez absolument justement de dire, c'est l'Angleterre qui a battu pour beaucoup des choses en Europe, que maintenant l'Angleterre rejette comme ça. Et surtout, le fond de xénophobie en Angleterre qui est très fort, et je reviens, Farage, le chef de le Parti d'indépendance européen, qui maintenant fait semblant comme si des millions des Syriens vont arriver sur la Manche demain si on quitte pas l'Europe, qui est effarant, cet argument.
Jonathan, quel a été le rôle jusqu'à présent, le rôle des médias? On sait que les journaux populaires, surtout ceux qui appartiennent à Rupert Murdoch, Australien naturalisé américain, anti-européen depuis toujours, ces journaux populaires ont toujours été avec virulence contre l'Europe et en particulier contre la France d'ailleurs. Et là, quel est leur rôle aujourd'hui dans cette campagne?
Ben, il faut dire que la presse, le Financial Times, le Guardian, etc., qui sont pour l'Europe, ils reflètent un peu la campagne Remain. Ils sont très raisonnables.
Mais ça, c'est la presse des élites.
Ils ont des bonnes argumentations. Oui, mais exactement, c'est ça. Tandis que la presse populaire, c'est pas tellement les éditos, c'est tous les jours, à la une, encore plus des immigrés vont arriver, encore un péché de l'Europe, etc., etc. Et ça, comment dire en anglais, drip feed, compte goutte, etc. Mm-hmm. Ça a un effet, je crois, sur une population qui, et ça aussi c'est des chocs de campagne, attendait à être influencé dans ce sens-là, et qui, dans un sens, s'éveille. Et là, ce qu'on voit en Angleterre, tous les sondages, j'ai vu l'autre jour, ça reflète des énormes différences des ce qu'il faut appeler des classes sociales en Angleterre, des jeunes et des plus âgés, et surtout des régions. En Angleterre, à Londres, la plupart des gens sont pour l'Europe, ils sont cosmopolites, etc., etc. Mais le plus qu'on va en province, le plus on trouve un rejet du monde et de l'Europe. Et c'est un peu, on voit ça, je suppose, en France, avec le Nord-Est et puis le littoral méditerranéen. On voit un pays qui se déchire dans beaucoup de sens.
Éric Scholl, bonjour. Vous dirigez Courrier International. Vous êtes notre partenaire depuis les débuts de cette émission. Vous avez, vous, parcouru la presse de l'Europe continentale et on voit à quel point, du nord au sud de l'Europe, l'inquiétude grandit de façon assez unanime quant aux risques et aux conséquences du Brexit.
Oui, aux Pays-Bas, tout d'abord, le journal Des Groene Amsterdammer évoque la possibilité d'un exit, c'est-à-dire l'équivalent du Brexit. Mais une telle consultation n'est pas pour demain, prévient l'hebdomadaire, car sur le plan juridique, ce type de référendum doit porter sur une loi qui vient d'être votée par le Parlement du pays Or, les Pays-Bas sont déjà membres depuis longtemps de l'Union européenne, ce qui exclut la possibilité d'un tel vote. D'autant que, selon les sondages, les europhobes restent minoritaires dans le pays. Alors, on observe les mêmes types de démangeaisons au Danemark du côté des formations populistes. Le quotidien Berlingske rapporte que le parti du peuple danois souhaite lui aussi, en cas de Brexit, organiser un référendum. Mais attention, avertit le journal, nous ne sommes ni un grand pays, dont la langue est parlée sur toute la planète, ni un géant économique doté d'un centre financier comme Londres, et notre reine n'est pas à la tête de 15 nations et d'un Commonwealth regroupant 53 États. Bref, conclut Berlingske, le Danemark est un petit pays qui a tiré des bénéfices de son adhésion depuis plus de 40 ans. Alors non, la défense des intérêts du Danemark ne dépendra pas de l'humeur des électeurs britanniques.
Donc pas nécessairement d'effet domino en cas de Brexit, en quelque sorte, mais en Espagne, où il doit y avoir des élections législatives dans 10 jours, là, le Brexit suscite des inquiétudes.
Bien sûr, car là aussi, l'hypothèse du Brexit suscite des inquiétudes. Selon ce journaliste du titre en ligne Elle Confidentiel, en cas de Brexit, sans aucun doute, l'une des principales victimes serait l'Espagne, à cause de la résurgence du nationalisme. Quelqu'un imagine-t-il l'effet stimulant qu'aurait un tel événement politique sur les agitateurs nationalistes catalans, se demande le journaliste, dans un article très pessimiste sur l'Europe malade.
Alors, quand on va maintenant dans les pays d'Europe centrale, les pays de l'Est, dont les ressortissants, encore une fois, sont accusés par le camp du Brexit d'inonder, d'engorger les services sociaux et ont en quelque sorte réactivé cette question de l'immigration, que dit la presse dans ces pays d'Europe de l'Est ?
Eh bien, on retrouve les mêmes interrogations. Le Royaume-Uni est en train de jouer à la roulette russe et les quelques 220 000 membres de la communauté roumaine qui y vivent tremblent à l'idée d'une sortie de l'Union. C'est ce qu'écrit en tout cas le quotidien roumain Courierol Bolnav. Le même journal pose la question de fond. Les Britanniques vont-ils signer l'arrêt de mort d'une conscience européenne? Et maintenant, si on regarde en Hongrie, eh bien, la réaction est un peu différente. Le site d'information Motkatzer rappelle que le Premier ministre, Viktor Orban, a prévu d'organiser un référendum cet automne sur la politique européenne concernant l'accueil des réfugiés. Et le site donne la parole à un analyste plutôt proche du gouvernement qui établit le parallèle entre le futur vote hongrois et le référendum britannique. Les deux représentent un défi pour les élites européennes et signalent la fin d'un super État fédéral, explique ce commentateur hongrois. Et il poursuit, il est révélateur qu'il ait fallu juste quelques mois pour passer d'une union toujours plus étroite à l'idée d'État-nation plus fort.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Jean-Dominique Giuliani, les partisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, et il y en a aussi en Europe continentale, soulignent qu'en fait, ce serait l'occasion pour les Britanniques de redéfinir bien évidemment leurs propres priorités. Les Britanniques, et Toby Young nous l'aurait dit, s'il avait pu rester avec nous un peu plus longtemps, espèrent aussi qu'il y ait un deuxième référendum. Autrement dit, les autres Européens seraient tellement effarés à l'idée que la Grande-Bretagne sorte que David Cameron pourrait retourner à Bruxelles et dire « Regardez, on ne va pas se lancer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans de négociations pour la sortie ». Et donc, voilà, proposez-nous un meilleur marché. Cette idée d'un deuxième référendum.
Oui, elle est de totale mauvaise foi. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais elle marque quelque chose que vous avez raison de noter. C'est l'absence totale de responsabilité dans la campagne britannique des conséquences du choix britannique sur le reste de l'Europe. Et ça me frappe beaucoup, venant de nos amis britanniques, qui généralement ont quand même une forte conscience de ce qu'ils représentent dans le monde, sur le continent, et qui sont peut-être plus tournés vers l'extérieur que ne le seraient les Français. Et donc, cette irresponsabilité totale a des conséquences, comme on vient de le voir avec Eric Scholl. Elle en a, à mon avis, d'encore plus graves. Je ne sais pas s'il y aurait un deuxième référendum ou autre. Ce que je sais, c'est que, quelle que soit l'issue du scrutin du 23 juin, il y a urgence à ce qu'il y ait des initiatives européennes pour arrêter l'enchaînement fatal qui s'est mis en route et qui frappe désormais les Anglais.
Et d'autres, on voit que les Tchèques, par exemple...
Oui, mais c'est moins grave, si je puis dire.
Oui, mais attendez, voilà. Il y a des dispositions sur la fiscalité qui doivent être prises à l'unanimité. Et là, les Tchèques disent, mais non, nous ne sommes pas d'accord parce qu'ils veulent, si j'ai bien compris, un régime de TVA spécifique. Et donc, ça prouve bien, s'il n'y a pas d'effet domino immédiat, il y a bien un climat qui va vers une affirmation, et il n'est pas nouveau ce climat, alors, une affirmation des intérêts nationaux avant les autres. Et la France, d'ailleurs, a contribué.
Oui, au risque de vous surprendre et sans vouloir faire de politique partisane, je pense que la responsabilité principale de cette situation revient à la France et à l'Allemagne, qui étaient traditionnellement le moteur d'un processus d'intégration qui montrait l'exemple, en quelque sorte. Et dans le couple franco-allemand, je pense que la France est encore plus responsable, parce qu'elle n'est pas à l'initiative. Alors on nous dit qu'il y a des initiatives en préparation pour la fin du mois de juin, début du mois de juillet, je l'espère. Parce que s'il n'y a pas quelque part, au sein de l'Union européenne, un petit moteur qui montre qu'il y a des objectifs à atteindre en matière de fiscalité, en matière d'immigration, évidemment, quelque chose de plus convaincant que ce à quoi on assiste aujourd'hui, eh bien nous allons continuer dans ce processus d'élitement où les populistes, voire les nationalistes en Europe centrale, où les extrémistes, chez nous ou ailleurs, vont tenir le haut du pavé, quelle que soit la réalité des faits. Les faits n'ont plus d'importance, comme l'ont dit plusieurs de vos interlocuteurs. Ce qui a de l'importance, c'est le ressenti. Et on sait que l'Europe, c'est le continent des ressentiments par excellence. C'est
et de la mémoire historique,
de la mémoire ressassée à l'envi.
Et des cicatrices.
Vous allez voir ressortir le traité de Sèvres, le traité de Trianon pour la Roumanie, la Hongrie. On l'entend déjà. Et Jean-Claude Juncker a une très bonne formule pour ça. Le président de la Commission européenne, il dit « Méfiez-vous, les dragons du populisme, du nationalisme ne sont qu'endormis en Europe. Ils ne sont jamais totalement vaincus. » J'ai peur qu'on voit la queue du dragon en ce moment en train de s'agiter.
Pourtant, est-ce que Donald Tusk, qui est donc le président polonais du Conseil européen, qui a pris plus d'ascendant, le Conseil européen au niveau institutionnel, plus d'ascendant que la Commission, est-ce que Donald Tusk a eu raison d'aller jusqu'à dire si la Grande-Bretagne sort de l'Europe, c'est non seulement la fin de l'Europe, c'est la fin de la civilisation occidentale?
Je crois que c'est excessif et que ça montre aussi... Donald Tusk est polonais, la Pologne a une propre histoire, toujours tragique, etc. Non, je crois qu'il a tort et je crois qu'il doit y avoir une réaction. Cette réaction ne peut venir que des principaux pays par la taille sur le continent, quelle que soit l'issue du résultat, et que remettre en marche de manière crédible, par exemple par une politique migratoire dont on peut débattre, mais qui soit effective, parce que là on prend des décisions, on ne les applique pas, les drames continuent, les morts continuent dans la Méditerranée, donc c'est l'échec total sur tous les plans. Donc c'est quelques résultats concrets et surtout une vision qui peut permettre de contenir ces réactions populistes ou extrémistes qui ne sont pas l'apanage de l'Europe, mais pour laquelle l'Europe est la plus vulnérable.
Ian Begg, merci d'être avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes professeur à la London School of Economics. Est-ce que l'idée du processus qui serait enclenché par un vote jeudi prochain qui serait favorable à la sortie de la Grande-Bretagne, l'idée que ce processus de sortie serait non seulement inédit, mais extraordinairement complexe et prendrait en fait non pas 2 ans, mais probablement 3 ou 4 ans, est-ce que cette idée-là pénètre dans le débat ou pas du tout? Est-ce qu'encore une fois, comme vient de le dire Jean-Dominique Giuliani, les faits sont devenus totalement indifférents et n'alimentent pas un débat passionnel?
D'un côté, on dit que ça peut se régler très rapidement. Donc, ceux qui souhaitent le Brexit disent qu'il y a des intérêts, des incitations pour les deux côtés pour marcher vite. Par contre, les fonctionnaires, dont l'ancien chef de la bureaucratie britannique, a dit que ça pourrait durer jusqu'à 10 ans. Et que, de ce fait, il y aura beaucoup d'incertitudes économiques qui nuiraient à des possibilités d'avoir des solutions rapides. Et si vous permettez deux mots sur la question d'un deuxième référendum.
Oui, bien sûr.
Moi, j'estime que c'est une fantaisie. Que les Britanniques ne sont pas les Danois ni les Irlandais qui cherchent à marchander pour avoir quelque chose de plus. Pour moi, c'est la décision finale si c'est Brexit la semaine prochaine. Et il n'y aura pas de recours.
Jonathan Fenby, est-ce que c'est cette perspective, encore une fois, d'un processus de sortie interminable, cette absence de recours, comme vient de le souligner Ian Begg, est-ce que cela a une quelconque incidence, à votre avis, sur la campagne qui, encore une fois, doit reprendre, en principe, probablement lundi, et sera donc clos par le scrutin de jeudi?
Je crois pas, ça n'a pas d'effet, je crois, sur les adhérents du Brexit là. Ce qui est frappant là-dedans, quand on vient d'entendre, c'est la manque de responsabilité côté Brexit comme ça. C'est comme ils pensent, on aura un grand ouf et puis le soleil va briller 380 jours par an.
Oui, ça pourtant, les Britanniques savent que c'est absolument impossible.
C'est absolument impossible et on sait toutes les difficultés qu'il y a. Mais par exemple, on dit, la Chine va venir chez nous avec des accords superbes sur le commerce. Mais non, c'est un non-sens dans les répercussions de ce qu'il dit. Et encore plus important, comme on vient d'entendre, c'est les répercussions en Europe. Bon, l'Europe fédérale est morte, on sait, il faut réinventer l'Europe. C'est surtout la France et l'Allemagne qui devaient faire ça avec la Commission, probablement. Et l'Angleterre devait faire partie de ça. Mais non, pour Brexit, on va être seul. C'est Elisabeth Ier, c'est les grands jours, c'est le défait de Napoléon, c'est où l'Angleterre joue ce rôle solitaire. Et le fait qu'on va, comme je crois on dit toujours en français, on va pédaler dans la choucroute pendant 5 ans ou plus.
Ou la semoule, on a le choix, la choucroute ou la semoule.
Moi, j'ai toujours dit la choucroute, mais bon, je préfère la choucroute à la semoule. Ça entre pas en tête des gens. L'effet économique qu'il y aura, le fait que le National Health Service, dont on a parlé, dépend beaucoup des gens qui viennent de l'Europe pour travailler, que beaucoup des entreprises britanniques dépendent également des ouvriers, il faut dire, à très bas salaire, qui viennent de l'Europe. Et l'ironie là-dedans, parmi beaucoup des ironies, c'est que c'est des gens de la droite du Parti conservateur qui mènent Brexit surtout, ce qui sont les grands porte-parole là, et c'est eux qui veulent démanteler le service de santé en Angleterre. Mm-hmm. C'est eux qui ont poussé tout la libéralisation des marchés qui dépendent des ouvriers. On a eu l'autre jour un chef d'entreprise pro-Brexit à la télévision, dont 90% des ouvriers vient de l'Europe de l'Est. C'est un non-sens.
Jean-Dominique Giuliani voudrait vous poser une question, Jonathan Fenby.
Une question bien française et très saugrenue. Il y a un accord pour que la monarchie britannique, condition de son existence, ne prenne jamais position dans les questions politiques. Sauf quand même quand l'essentiel est en jeu. On se souvient du rôle de la monarchie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui par des gestes a montré ce qu'elle pensait. Est-il envisageable, compte tenu de l'importance pour le Royaume-Uni et pour l'ensemble de l'Europe, que la reine manifeste d'une manière ou d'une autre, avec la discrétion nécessaire, son choix dans ce référendum?
Un
chapeau bleu avec des étoiles jaunes, par exemple.
Oui, ce sera très intéressant. Vous posez une question intéressante là. On n'a pas évoqué ça en Angleterre. Je doute qu'à 90 ans, elle va faire ça. Et
si elle faisait ça, la grande question, c'est que est-ce que Boris Johnson, Michael Gove et les autres diront « Ah, voilà, encore un expert qui nous dicte
». Non, ça, enfin, on espère, pour la tradition et pour l'honneur de la Grande-Bretagne, qu'il ne pousserait pas la mauvaise éducation jusque-là. Une dernière question, précisément, Jonathan Fenby, une question de politique intérieure. On voit bien que le Parti conservateur au pouvoir est déchiré. Vous nous avez expliqué tout à l'heure que le Parti travailliste est tellement affaibli qu'il n'est pas en mesure de prendre la relève. David Cameron est en principe à la tête du Parti conservateur pendant 4 ans encore. Imaginons qu'il perde ce référendum jeudi, est-ce qu'il démissionne et est-ce qu'à ce moment-là, Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, celui qui profère les énormités les plus absurdes pour appuyer sa cause du Brexit, est-ce que Boris Johnson peut devenir le patron du Parti conservateur ?
Je le crains. Oui, c'est ça, encore une des répercussions de cette vote. Et le problème, c'est que Johnson, il s'est montré complètement prêt à dire n'importe quoi pendant cette campagne-là. Mais il n'y a pas de doute qu'il est très populaire à la base du Parti conservateur et avec les nouveaux députés conservateurs. La question peut-être plus intéressante, c'est que si Cameron gagne, mais par seulement 1 ou 2%, est-ce qu'il sera obligé de prendre Johnson et Michael Gove dans son gouvernement? Et à la télévision l'autre
jour, c'est le purgatoire dit, jusqu'au bout, alors.
Oui, et ça peut paralyser le gouvernement, parce qu'à ce moment-là, tout le monde attend le jour où Cameron va retourner chez lui à la campagne et Johnson va prendre le pouvoir. On aura la politique en suspens, si vous voulez, à ce moment-là. Et on risque plus loin, peut-être, ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, je sais pas, mais d'avoir exactement cet groupe des gens qui aime pas l'Europe, qui aime pas la globalisation, qui aime pas le monde moderne, en fin de compte, qui vont être encore plus déçus par le gouvernement, par Johnson, par les autres gens, par les effets d'une sortie de l'Europe, et ils vont devenir encore plus radicalisés, populistes à ce moment-là. Donc, je vois, comme vous avez peut-être compris de ce que j'ai dit, c'est que, bon, Brexit, c'est très important, mais aussi, cette vote est une façon que personne n'a attendu à montrer des vérités sur l'Angleterre. Je ne dis pas sur la Grande-Bretagne nécessairement, étant donné que l'Écosse est un peu différent, sur l'Angleterre, dont on n'avait pas conscience. Bon, je parle comme quelqu'un qui habite au centre de Londres, qui a une femme française.
Oui, là, vous êtes suspect à tous égards.
Je suis très suspect. Si vous allez dans le nord d'Angleterre, il dira encore un snob londonien qui nous dit comment qu'il faut agir.
Un dernier mot, Jonathan, avec vous, en hommage encore une fois à cette jeune femme, Jo Cox, assassinée jeudi, qui représentait un espoir dans cette classe politique tellement décriée. Donc 41 ans, une expérience dans les organisations humanitaires et notamment Oxfam. Elle a été sur les terrains de guerre, elle s'est beaucoup impliquée dans les questions d'immigration précisément. Quelles que soient les motivations de son assassin, est-ce que cela veut dire aussi pour le renouvellement de la classe politique en Grande-Bretagne, et c'est un problème qui nous obsède aussi en France, est-ce que cela veut dire là aussi qu'il y a un drapeau noir ?
Oui, absolument. Je la connaissais un peu avant qu'elle était députée à Oxfam, etc. Et elle était les gens exactement de personnages qu'il faut avoir dans la politique et qui s'est investi dans la politique. Et vous dites absolument, vous avez raison, le problème de renouvellement de la classe politique est un gros problème partout en Europe et ça il y a un sombre aspect pour ça de son décès.
Jonathan, merci mille fois d'avoir été avec nous. Jean-Dominique Giuliani, le moment est venu. Sinon de conclure, il faut attendre jeudi, mais de voir néanmoins quelles sont les répercussions. Il y a à la fois l'issue de ce scrutin, mais il y a déjà, comme vous l'avez expliqué, tout ce qu'il signifie sur l'état de nos démocraties aujourd'hui. Et nous abordons, en France comme en Allemagne, une échéance électorale. 2017, en France comme en Allemagne, en mai pour nous, en novembre chez nos voisins allemands. Cela veut dire quand même que nos systèmes politiques, et a fortiori la construction européenne telle qu'on l'a connue depuis 60 ans, sont ébranlés jusqu'à leurs racines.
Oui, profondément. Je crois qu'on le doit, c'est ce que je pense personnellement, après avoir beaucoup réfléchi sur le sujet, on le doit à la complexité des mutations à l'œuvre dans le monde. Ils sont très difficiles à expliquer, ils sont très difficiles à traduire.
Surtout quand nos hommes politiques ne se préoccupent pas de les expliquer.
J'allais le dire. Ouais. Et surtout quand elles sont très complexes et très rapides. Et on sent que le recrutement politique ne se fait pas forcément parmi les milieux qui sont les meilleurs ou les plus ou ceux qui sont les plus capables de comprendre ce qui se passe, de l'anticiper et de l'expliquer. Et donc, comprendre et expliquer, c'est une des raisons, à mon avis, de la réaction populiste. C'est-à-dire, il faut rajouter comprendre, expliquer et avoir le courage aussi d'expliquer et de proposer des choses. Et on voit bien que ce n'est plus, dans les démocraties européennes, quelque chose de courant. Deuxième élément, l'Europe institutionnelle, la communauté, l'Union européenne, est la plus vulnérable à ce type de mouvement parce qu'elle est inachevée. Parce qu'elle-même a besoin de se renouveler profondément. Finalement, en 60 ans, elle a plutôt réussi. Mais on voit maintenant qu'on est passé à autre chose. Et donc, elle subit plus encore que nos démocraties nationales ce choc de ce monde en bouleversement très rapide.
Jean-Dominique Giuliani, merci. Je rappelle que vous présidez la Fondation Robert Schuman et vous avez publié avec Thierry Chopin et Michel Fouché le rapport 2016 sur l'Europe, sur l'état de l'Union, et aussi un papier très intéressant dans la revue de l'IFRI, Politique étrangère, précisément sur extrémisme, populisme et nationalisme à l'assaut de l'Europe. Je remercie aussi Toby Young, partisan du Brexit, directeur adjoint du magazine The Spectator. Merci mille fois à Jonathan Fenby, directeur général, cofondateur de Trusted Sources, qui a écrit une passionnante histoire de la France. Merci à Ian Begg de la London School of Economics et à Mark Leonard de l'European Council on Foreign Relations. Je remercie aussi Xavier Combes, notre interprète, qui a donc traduit notre ami Toby Young, à la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique, Pierrick Charles. Je remercie aussi à la BBC Nasser Pervez, qui était aux manettes à Londres. Meryl Moneghetti, comme chaque semaine, va s'empresser de vous recommander sur notre site internet toute une bibliographie nécessaire pour approfondir notre connaissance des mystères des îles britanniques. Et comme chaque samedi, bien sûr, vous allez retrouver maintenant Dominique Rousset pour l'économie en question. Merci, bon week-end. Thank you.